y Blanca Arauz, y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luis Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred.
Barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenciú.
Yo vi de Sensontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal.
Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí.
Según sus señas pasó por allá.
Le cuento, Sensontle, amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale!
Enterré el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí.
Voilà, maintenant je vais encore vous passer un bout d'interview de Anna. Anna, c'est une femme internationaliste d'Argentine qui travaille à Managua dans le secteur de l'éducation des adultes. Elle parle français heureusement, mais pour des raisons techniques, je peux vous en passer qu'un petit bout parce que la cassette était très mauvaise. Alors, on y va.
Anna, tu travailles donc au ministère de l'Éducation et tu es responsable d'un secteur de la ville en ce qui concerne l'éducation des adultes. Peut-être avant de parler de ton travail en particulier, de ce que tu fais précisément, ce serait bien de rappeler, d'expliquer un petit peu ce qu'est l'éducation des adultes au Nicaragua, de ce que cela signifie par rapport à tout le processus qu'il y a eu au Nicaragua, de la révolution et tout ça.
L'éducation des adultes, c'est, je pense, c'est plus que d'autres choses, c'est une revendication historique très, très demandée par le peuple, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a ramené de, je sais pas comment si on dit,
hérité
de le premier même de Sandino, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un objectif qui, déjà à l'époque, s'est posé Sandino, c'était d'éduquer le peuple. Après, avant. Bon. comme je te disais, après ça, est pris par les Francs sandinistes de libération aussi comme un des buts fondamentaux pour mener après de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que même avant, on commençait déjà à le faire dans la guérilla. On a commencé déjà à éduquer même les copains qui ne savaient pas lire ni écrire. Mm-hmm. Après la prise de pouvoir, les Francs et aussi les gouvernements ont continué ces legos historiques et on l'a concrétisé dans la croisade d'alphabétisation. C'est-à-dire, cette croisade avec un objectif qui était d'abord, alphabétiser les gens qui ne savaient pas lire ou écrire, mais aussi faire prendre conscience aux gens des situations où ils se trouvaient après 40 ans de somocisme. Et après ça, ou en même temps que ça, faire aux gens, faire que les gens prennent conscience aussi du besoin de participer à cette révolution, tu vois, de participer à ce processus qui s'était fait pour eux-mêmes. Mais on a fait ça à la croisade et après la croisade on a visualisé, on dit pas ça,
si.
On a visualisé que il fallait continuer à approfondir cette alphabétisation avec une éducation des adultes, c'est-à-dire une éducation faite pour eux et qui appartenait aux gens qui étaient les plus opprimés, je sais pas comment on dit.
Oui, opprimés. Ouais.
Oui, dans l'époque antérieure. Et bon, c'est le rôle, je pense, le rôle qui joue l'éducation des adultes dans ce processus est très important parce que c'est un processus dans le processus, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une révolution dans la révolution, si tu veux. Parce que c'est l'instrument plus important idéologique et aussi politique qu'il y a la révolution. C'est-à-dire, avant, il y avait une éducation qui c'était vraiment, c'était pour les classes les plus dominantes, les classes dominantes. Mm-hmm. Et il fallait vraiment tourner ça, renverser ça et créer une éducation pour les classes opprimées. Et dès ces classes, je ne sais pas comment dire, qui appartiennent à ces classes, qui naissent d'elles-mêmes. Mm-hmm.
Alors, en quoi ça consiste ton travail au ministère de l'Éducation? Donc, tu es responsable d'un secteur de la ville de Managua.
Alors, dans ce secteur, ça m'intéresse, c'est-à-dire je suis responsable seulement des usines qui sont placées là.
D'accord. Parce que l'éducation... Ouais.
Parce que l'éducation d'adultes, on travaille avec deux façons, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont responsables des quartiers, mm-hmm. qui font un travail avec les CDS, avec...
Donc avec l'endroit où les gens habitent.
Habitent.
Voilà.
Et ce semestre, mm-hmm. qui vient d'ouvrir, on a vu la nécessité d'apporter l'éducation au centre du travail.
D'accord.
Alors pour ça, on a mis des personnes qui sont responsables de faire ça, justement.
Et ça, c'est nouveau.
ça c'est nouveau. Mm-hmm. C'est une modalité qui avant n'existait pas.
D'accord.
On a fait de petit à petit, on a commencé déjà, on a commencé l'année passée, on a fait des essais comme ça. Mais maintenant, on fait avec tout, on met tous les efforts.
Tous les efforts sur les centres de travail.
Sur les centres de travail. Même, on a désigné à Managua les centres de travail comme
prioritaire.
Voilà.
Et ça, c'est pourquoi? Parce que c'était moins. On pense que ça va être plus efficace que dans les quartiers. Parce qu'il y a eu des problèmes dans les quartiers, ou bien pour simplement pour augmenter.
Ça répond au but de l'éducation des adultes. C'est-à-dire, le but, un des plus importants, c'est la formation professionnelle des gens. Mm-hmm. Alors, on s'est rendu compte que dans les quartiers, il y avait beaucoup de ménagères, de vieilles femmes, de vieilles hommes, comme ça, qui ne travaillaient pas et même qui n'étaient pas en condition de travailler plus tard. Mm-hmm. Et aussi, il y avait beaucoup de gens, des jeunes qui avaient l'espoir, après l'éducation des adultes, de passer dans une école secondaire,
ouais,
par exemple. Mais qui ne s'intéressaient pas pour la formation professionnelle. Alors, on a vu que c'est ceux qui vraiment s'intéressaient pour la formation professionnelle et qui avaient besoin de ça, c'était les ouvrières. Justement, ceux qui maintenaient, je ne sais pas comment on dit, ceux qui étaient dans la production, mm-hmm, ceux qui pourraient justement enrichir avec ces technifications les processus industriels qui est petit. C'est pas tellement grand ici au Managua, c'est pas tellement important, mm-hmm, dans le secteur industriel, mais c'est tellement important dans le secteur agraire, mm-hmm, c'est-à-dire pour l'ouvrière qui est dans la campagne.
Mm-hmm.
Mais au Managua, c'est une ville où il y a la plus industrie, il y a l'unique ville qui a l'industrie. Mm-hmm. Alors là, il fallait mettre l'éducation pour ces ouvriers, ces travailleurs.
Mm-hmm. Donc pour préciser que le fait que toi, tu t'occupes de l'éducation des adultes en ville, dans les usines, ça ne veut pas dire qu'il y a un effort qui est fait à la campagne pour les paysans. Toi, tu t'occupes de ça, mais c'est... Bon, il y a d'autres gens qui font le processus de la même chose que toi à la campagne. Mais ça, je pense que c'est important de le dire pour que les gens ne s'imaginent pas que tout à coup, au Nicaragua, on s'occupera plus des
paysans,
des ouvriers que des paysans.
Voilà. Non, non. J'ai précisé que Managua, c'est plus important, l'industrie, mm-hmm, parce que c'est la seule ville qui a l'industrie. Alors c'est pour ça qu'il faut prioriser ça, ces petites choses qu'on a ici, tu vois. Mm-hmm. Alors il faut le faire plus efficace, plus productif. La façon d'arriver à ça est justement en donnant une formation professionnelle aux ouvriers. Et bon, alors je te racontais qu'est-ce que je faisais. C'est-à-dire, moi, je développe l'éducation des adultes dans les usines de ce secteur au Managua. Pour faire ça, on fait un travail organisatif, un travail pédagogique. On s'occupe de contacter les organisations de masse qu'il y a dans les fabriques, qu'il y a dans les centres de travail, pour justement mener cette éducation dans les centres de travail. Et on fait un travail de propagande, de conscientisation.
Voilà, la suite de l'interview, on ne peut malheureusement pas vous la passer parce qu'il y a trop de problèmes techniques. Anna a expliqué après comment ça se passe concrètement dans une usine, donc où ils travaillent conjointement avec les syndicats. Ils s'efforcent de faire prendre en charge par le syndicat lui-même tout le processus d'éducation des adultes. Les cours ont lieu après le travail, dans les lieux de travail lui-même, eux-mêmes, et sont donnés par d'autres travailleurs de la même usine. Les cours sont... En fait, il y a 3 degrés. C'est comme une espèce d'école primaire, disons, à 3 degrés. et avec chaque année est sanctionnée, je pense, par un espèce de petit diplôme. Et les travailleurs peuvent suivre l'un degré après l'autre, ce qui leur donnera la formation de base, de culture générale, pour après pouvoir accéder à une formation professionnelle proprement dite. Anna avait également travaillé dans d'autres secteurs que celui des usines. Elle avait travaillé dans les quartiers, comme elle l'a raconté. Elle avait travaillé également dans les marchés, où là, elle avait affaire principalement à des femmes, et où elle disait que les femmes étaient incroyablement avides de cette éducation d'adultes et qu'un grand, grand nombre de femmes participaient à ces cours. Nous avons également parlé un petit peu des problèmes des femmes dans les usines, qui travaillent également, surtout dans le secteur de l'alimentation. Et elle a pu remarquer que les femmes, les usines qui sont composées quasi entièrement de femmes, connaissent une très grande participation au cours d'éducation des adultes. Par contre, les femmes qui sont isolées à quelques-unes dans une usine où se trouve une majorité d'hommes participent en général pas au processus d'éducation des adultes. Bon, elle a raconté encore tout un tas d'autres choses, mais je crois que je vais arriver à la conclusion de cette émission. Et bon, je ne sais pas très très bien comment conclure, mais puisqu'on a terminé en parlant d'éducation, je voulais vous faire part de la réflexion d'un internationaliste qui travaille là-bas, qui disait si tout se casse la figure, il restera toujours ça, une génération marquée par l'éducation des adultes. Et ça, on ne pourra jamais le leur prendre. Bon, moi j'espère vraiment qu'il va en rester plus que ça. Mais je pense que c'est effectivement un processus irréversible et dont nous, en Europe, on tend à sous-estimer beaucoup, beaucoup l'importance. En ce moment, la seule présence culturelle qu'il y a absolument partout au Nicaragua, c'est-à-dire la seule chose qui n'est pas strictement liée à la survie quotidienne, c'est l'Église. Et je pense que c'est justement d'autant plus important qu'il y ait d'autres choses qui puissent se passer, que l'art, que la culture, que l'éducation se répandent partout, parce que sans toutes ces choses-là, on s'en aperçoit encore plus dans un pays où il y a la misère qui règne. Eh bien, on ne peut rien faire, eh bien, les gens ne se mettent pas ensemble, les choses sont parachutées d'en haut et ne se font pas, et il n'y a pas de révolution. Voilà, je vais terminer là cette émission. On va écouter encore un peu de musique, et puis après je vous fais écouter Sebaco, la ville où on vend les oignons.
Arribita sol arriba encontré mi corazón, a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Era el tiempo del asombro de seguir el rastro al sol. Arribita cielo arriba donde hacía en el color de sus manos vi nacer los oficios de laurel y un susurro de telar que rondaba mi niñez. Arribita sueño arriba, despertó mi corazón, porque a veces me dolía la tristeza de los dos. Estaba allí gestándome, mamá sin mi mamita, a su calor me vio crecer, soledad con soledad. Y su raíz en mi raíz regresa siempre a cantar. Arribita sol arriba, encontré mi corazón, a la la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. De su mano vi nacer los oficios del laurel y un susurro de tela que rondaba mi niñez. Estaba allí gestándome, mamá sí, mi mamita.
Somoza a un gendre suisse, Monsieur Rappold de Zurich. Ce Rappold dirige à partir de New York la holding de Somoza en Europe, la Vision SA. C'est ce holding, aidé par les banquiers suisses, qui évacue dans les banques de Zurich et de Genève des dizaines de millions de dollars pris sur les sommes énormes que les particuliers du monde entier, les Nations Unies, les organisations humanitaires ont versées au gouvernement de Managua après le tremblement de terre de 1972. Depuis 1980, le gouvernement de Managua s'efforce en vain d'obtenir la restitution de ce butin par les banques suisses. Retenez bien ce nom, Monsieur Rappold de Zurich. C'est le gendre de Somoza. C'est lui qui a le numéro du compte de Somoza. J'ai trouvé cette petite note très instructive dans le livre que vient de faire paraître Jean Tsigler, qui s'appelle « Les rebelles ». C'est un livre dont je vous recommande la lecture. Il a une grande partie qui traite du Nicaragua et il y a aussi un avant-propos et une introduction magnifique. Il y a également un autre livre pour ceux qui s'intéressent au Nicaragua plus particulièrement, qui s'appelle « Nicaragua, du rêve à la réalité, du rêve à la révolution », pardon, qui fait la suite à un autre livre qui avait paru il y a 2 ans, qui s'appelait « Du rêve à la réalité ». C'est une grande brochure éditée par le Comité de solidarité avec le Nicaragua, qui est très très bien faite, dans laquelle on trouve à peu près tous les renseignements qu'on peut avoir envie d'avoir si on se rend là-bas ou si on a envie de savoir ce qui s'y passe. C'est tout pour ce soir sur le Nicaragua. Un peu de musique.
su miseria y su dolor, pero esperanza también ellos llevaban, de ser libre y cantaban su canción.
La pleine lune va vous dire bonne nuit, bonsoir. Notre émission sur le Nicaragua se termine. La semaine prochaine, c'est Pâques. La pleine lune prend des vacances. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Mais dans deux semaines, le 13 avril, nos émissions régulières du mercredi soir reprennent. La pleine lune sera de nouveau au rendez-vous. Donc nos prochaines émissions, mercredi 13 avril, sur le thème lesbianisme et féminisme, une rencontre entre des femmes lesbiennes et des femmes féministes non lesbiennes. La semaine d'après, le 20 avril, une émission d'une femme qui a fait le tour, un petit tour chez les radios libres de femmes en Europe et qui nous raconte son voyage.